à voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Ken Loach. Ce soir, le cinéma selon Ken Loach.
Bonsoir Ken Loach.
Bonsoir.
Alors, s'il y a peut-être un trait de votre caractère qui sort de votre œuvre, c'est la constance. Constance des thématiques abordées, constance des lieux de tournage et constance à travailler avec les mêmes collaborateurs. Vous avez collaboré avec le scénariste Paul Laverty sur 16 films, avec Barry Aykroyd, le chef opérateur, sur 10 films, avec la productrice Rebecca O'Brien et le compositeur George Fenton sur 17 films. Enfin, vous avez monté 25 films avec Jonathan Morris. D'où vient votre constance à privilégier les longues relations de travail?
Je peux ajouter les noms d'autres amis à cette liste. Fergus, Greg au son, Fergus fait les décors. Ça va au cœur de ce qu'est la réalisation. Parce que le cinéma, c'est un paradoxe. C'est très clairement le résultat du travail de plusieurs personnes. Il y a un caméraman, oui, il y a des scénaristes, très clairement, il y a un ingénieur du son, il y a des décorateurs, des costumiers, des acteurs. Et pourtant, si c'est simplement des gens qui font leur travail de façon professionnelle, selon leur propre goût, eh bien c'est tout simplement du cinéma commercial, avec aucune voix qui unifie le tout. Pour moi, le travail du réalisateur, c'est d'amener tous ces gens de talent, tous ces artistes, tous ces artisans, de donner une seule voix à la contribution de nombreuses personnes, pour que ça ne soit entendu que comme une voix, une vision, une idée, un moteur, une force. Que ça ne soit pas une addition de gens qui font des travaux différents. Et pour ça, il faut trouver des gens, comme un caméraman, par exemple, qui voient ce que vous êtes en train de créer devant la caméra, qui partagent les mêmes idées sur la façon de le filmer. De même pour le son, pour que ça ne soit pas un son de studio, pour que ça soit un son naturel, qui crée le sens de l'authenticité. Un décorateur qui ne soit pas là simplement pour dire quelque chose d'exceptionnel, mais qui soit un reflet de la réalité de la situation. Le monteur qui monte de son propre gré pour suivre la façon naturelle du montage, comme on en a parlé précédemment. Donc, c'est pas simplement des bonnes personnes qui partagent la même idée, mais... Ah, là... Non, c'est en bas.
Enter real life. The postman arrives.
Et voilà, l'irruption de la vraie vie. C'est le facteur, c'est pas Olivier Besancenot, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il le soit. Il m'a bien aidé. Mais non, c'est un vrai facteur. Je sais pas si vous allez pouvoir garder ça dans le montage final. Mais bon, allez, de toute façon. Voilà le facteur. Eh oui, le facteur sonne toujours deux fois. Et celui-là, non, il sonne une fois. Bon, bref. On parlait du fait que le cinéma était le résultat de beaucoup de contributions et le réalisateur doit trouver la voie unique. Trouver vraiment être sur la même longueur d'onde que le caméraman, il faut vraiment travailler beaucoup. On peut poser des fondamentaux, mais il faut partager les mêmes idées. De même avec l'ingénieur du son. S'il y avait un ingénieur du son qui disait « Ah, attends, j'ai entendu un papillon qui bouge ses ailes, il faut arrêter la prise de son. » Ben non, nous on veut un son d'ambiance qui reflète la réalité du lieu, de la rue, de la pièce. Donc, trouver un ingé son qui aime ça, et qui, avec lequel on puisse faire progresser ce désir, de même pour le décor, de même pour l'écriture du scénario. Par-dessus tout, je le dis précédemment, le scénariste, c'est le premier créateur. Et moi, je travaille avec un créateur, un scénariste qui voit le monde de la même manière que moi, qui a la même compréhension que moi de la façon dont fonctionne la société. les mêmes allégeances politiques, le même sens de la comédie, de ce qui vous touche, de ce qui vous met en colère, de ce qui vous fait pleurer. De ce qui vous meut, ça doit être la même impulsion. Et là, vraiment, on peut travailler ensemble et aller de l'avant. Mais si on travaille avec un auteur qui pense que quelque chose est drôle et moi, ça me fait pas rire, ça ne fonctionnera pas. Ou s'il a une vision politique différente, ça n'ira pas. Parce que les suggestions que nous faisons les uns aux autres, ça n'ira pas pour tout le monde. Donc il faut cette identité. C'est peut-être une façon un peu longue de le dire, mais l'identité de groupe que nous avons développée émerge à la suite d'un long travail et beaucoup d'expériences partagées et d'erreurs partagées et de joies partagées et beaucoup d'éclats de rire communs et avoir du plaisir au même moment cinématographique. Donc si on trouve quelqu'un comme ça, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble à nouveau avec ces personnes-là? Et on continue à travailler avec ses amis. Un des grands plaisirs du cinéma, c'est de travailler avec des amis. Et l'idée qu'il devrait y avoir un débat sur un plateau de prise de vue, il peut y avoir une discussion sur le football ou n'importe quoi d'autre. Mais s'il y avait un véritable débat sur ce qu'on fait, non, ça serait destructeur et ça ne s'est jamais produit. Parce que pour que les gens puissent travailler ensemble, ils doivent se sentir à l'aise, qu'ils soient véritablement dans une situation créatrice. Et là, vous savez, les acteurs sont très vulnérables. Ils vont vous faire pénétrer dans leurs sentiments. Ils ne pourraient pas le faire s'ils se sentaient en danger. Parce qu'ils se fermeraient. Et ce sentiment de soutien mutuel, de joie, de pouvoir se réunir et d'avoir du plaisir ensemble, mais qu'il y ait une volonté sérieuse qui sous-tend tout cela, alors là, on sera en sécurité. Quoi qu'ils fassent, ils peuvent oublier leur dialogue, peu importe. On va recommencer, on va faire une pause, on va reprendre un petit café, on va y revenir quand vous serez à l'aise. Et ils doivent le sentir, cela. Et à ce moment-là, ils vous donnent les moments les plus exceptionnels. Parce que s'ils ne le sentent pas, alors ils vont se refermer. Et ce sens de camaraderie, c'est ce qui vous permet, en tout cas moi, le réalisateur, de donner à un film sa voix unique.
And without that, it's a group of good professionals doing a good professional job, but all working with a slightly different impulse.
Et sans cela, c'est un groupe de bons professionnels qui font un bon travail professionnel, mais qui travaillent tous avec une impulsion légèrement différente.
Ken Loach, est-ce que la manière dont sont menées les recherches des comédiens est révélatrice de la façon dont votre tournage va se dérouler? Est-ce que vous auriez des exemples à nous raconter?
Well, I think. How do we work with actors?
Comment on travaille avec les acteurs? C'est une question sur ce qu'est le jeu au cinéma et en quoi il est différent du théâtre. Au cinéma, on travaille pendant les répétitions, la représentation et le développement de la représentation, l'arche du jeu, si vous voulez, l'arc du jeu. Une scène déclenche une autre scène et à l'intérieur de cette scène, il faut trouver un déclencheur pour telle émotion, une émotion, une relation. On le planifie et on le répète nuit après nuit. C'est là que le fait de jouer a commencé. C'est ce que font les acteurs. Ils répètent. Au cinéma, c'est différent, spécialement dans les films que nous faisons. Nous créons quelque chose devant la caméra et on veut suggérer au public que ça ne s'est jamais produit auparavant. On est attiré dans une histoire. En fait, on arrête de ne plus croire On croit que vraiment ça se produit. Bien sûr, on sait que c'est de la fiction, que c'est des acteurs, mais quand on le regarde, il faut avoir cette sensation que c'est en train de se produire. Il faut créer cette sensation d'authenticité, que la caméra puisse voir vos hésitations, vos réflexions, voir que vous êtes vraiment surpris. Et si vous êtes censé pleurer, que la caméra voit que vous allez pleurer, que vous tentez de reprendre votre souffle, que vous êtes incapable de poursuivre ce que vous faites. Alors, comment on y arrive? Tout d'abord, il faut trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est la clé. Si vous voulez qu'ils fassent quelque chose pour révéler le personnage du film, il faut que ça soit révélé par eux-mêmes, en eux-mêmes. C'est-à-dire trouver quelqu'un qui a certaines des caractéristiques du personnage, mais aussi... Il y a des choses qui sont impossibles de jouer, c'est la classe sociale. J'y reviens. Vous savez, des personnages de la classe ouvrière doivent jouer des rôles de la classe ouvrière. Des gens de la classe dirigeante doivent jouer des rôles de la classe dirigeante. Peut-être pas au théâtre, mais pour nous, c'est un peu plus difficile. Et si vous êtes d'une ville particulière, d'une région particulière. Vous savez, le dialecte, c'est plus que la phonétique, c'est l'utilisation du langage. C'est la façon de regarder le monde. Ça incarne l'humeur. Il y a un rythme de l'énoncé. C'est plus complexe que juste les sons. Il faut toujours trouver des gens qui viennent de l'endroit précis et travailler. On peut regarder, on peut voir la peau des gens. La peau de quelqu'un de la classe ouvrière est différente de la peau d'un quelqu'un de la classe dirigeante. La façon de manger est différente, ça change votre peau, ça change votre façon de vous tenir, vos muscles. Ça change la texture de vos mains. Toutes ces choses, le film peut le voir. Donc ça doit être les bonnes personnes. Et il faut trouver quelqu'un qui puisse incarner l'histoire, qui puisse vraiment faire advenir ces personnages. Vous savez, l'écriture de Paul est merveilleuse. Je n'aurais pas pu faire de film depuis si longtemps si je ne travaillais pas avec Paul Laverty. Mais quelqu'un doit incarner ces dialogues et être capable de maintenir ce niveau de langue. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que Paul a écrit à 95%. Le processus pour trouver la bonne personne, et puis répéter à travers l'improvisation, répéter les choses qui existent déjà avant qu'on commence le film. S'il y a quelque chose, par exemple, si dans le scénario il y a une famille, il faut que les gens puissent jouer parce qu'ils ont l'expérience de la famille, par exemple, si on prépare un repas, quelque chose comme ça, que les gens sachent avant le film comment fonctionne une famille ou comment fonctionnent les relations de travail et amener les gens à travers le scénario depuis la première journée jusqu'à la dernière journée. Bon, pas toujours dans le bon ordre, parce que parfois il faut filmer des choses qui ne sont pas dans le bon ordre. Mais d'ordinaire, on commence dès le début, ils savent tout de ce qui s'est passé auparavant, mais ils ne savent pas comment les choses vont se dérouler à l'avenir. Et puis on filme dans le bon ordre. Et quand il y a une surprise, on filme la surprise. Et chaque film a beaucoup d'exemples de cet ordre-là. J'ai découvert, et j'espère que les gens le voient quand ils regardent un film, il y a une profondeur de réaction qui est plus grande que s'ils avaient répété la scène 6 ou 7 fois et avaient essayé de verser une larme. Non. Ou d'avoir un éclat de rire. Il doit y avoir ce sens de spontanéité qui touche, qui émeut et auquel les gens peuvent se rattacher. Voilà, c'est ça le processus. Il faut trouver les bonnes personnes qui savent ce qu'elles font et laisser le moment se dérouler et laisser les surprises arriver.
Comme si la crédibilité de l'acteur était votre seule exigence.
Oui, la crédibilité, mais d'une façon, d'une manière qui soit en sympathie, que vous soyez attiré dans leur vie, que vous ne les voyez pas comme des spécimens dans une cage, mais que vous soyez attiré dans leur vie quand ils ont un dilemme, que vous ne sachiez vraiment pas quoi faire. Et si vous êtes ému par eux, alors vous ressentiez de la solidarité. Et s'il y a une injustice, que vous repartiez avec ce sentiment d'injustice. Parce que ça ne s'arrête pas quand le film s'arrête.
J'ai aussi lu que vous tourniez vos films selon l'ordre chronologique du scénario.
Ah oui, oui, c'est essentiel.
Pourquoi ?
C'est beaucoup plus facile. Si on filme hors séquence, il faut imaginer ce qui se serait passé dans les scènes qui n'ont pas encore été filmées. Pour un acteur, pour la continuité, c'est beaucoup mieux. Parce que quand on fait une scène, quand on tourne une scène, l'acteur en tire une expérience. Moi, je pense qu'il pourrait pas le sentir autrement. Et parfois, on change la fin d'un film en raison de l'instinct de l'acteur qui était bon. Et ce qu'on avait planifié était pas tout à fait bon, pas tout à fait juste. Et l'instinct de l'acteur, c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir quand on est réalisateur. C'est pour ça qu'il faut le protéger. Il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas qu'ils refassent la même scène, parce que leur instinct diminue à ce moment-là. Mais on a besoin de leur instinct. Et cet instinct est fragile, mais c'est la chose la plus importante qui soit.
Pour le scénario, vous travaillez depuis près de 30 ans avec Paul Laverty et vous expliquez que vous deviez être ensemble en parfaite osmose sur la même longueur d'onde. Expliquez-nous pourquoi, Ken Loach.
Vous voyez, il faut partager le même sens de l'humour, la même chose qui vous met en colère et tout cela. Et avoir les mêmes vues politiques. Parce qu'à ce moment-là, on peut se développer. Parce qu'il y a cette sécurité de savoir que si Paul fait une suggestion, je sois d'accord avec ses raisons pour le faire. Que ce soit bon ou mauvais, il fait une suggestion. Pour les mêmes raisons que moi, je ferais cette suggestion. Qu'on partage ces fondations, cette confiance. La distribution, par exemple, on a quelqu'un, un directeur de distribution qui trouve les gens extraordinaires. Mais quand on prend une décision finale, Paul viendra s'asseoir à côté de moi et dira, ah, celui-là, il est bien, celui-là, il est pas tellement bien, qu'on en discute. Et quand on fait un choix final, il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a Carlin, directeur de production, Paul, l'auteur, et moi. Et on partage tous cette décision. Et si quelqu'un avait des choses à redire, on le respecterait. Parce que c'est ce collectif qui fonctionne. Et il y a une sagesse dans un collectif. Vous savez, moi, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Et je respecte ce collectif.
Ken Loach, vous dites préférer le terme de réalisateur à celui de cinéaste. Pourquoi ?
Un cinéaste, ça suggère que c'est vous qui avez tout fait. Pour la même raison, je n'aime pas dans le générique un film de. Un livre peut être un livre de une personne. Un tableau peut être un tableau de. Mais un film, ça ne peut pas être un film de une seule personne. Ça ne respecte pas la contribution des autres. Et je ne suis pas d'accord avec les Français pour ça. Les Français font beaucoup de choses très bien dans le cinéma, mais un film d'eux, ce n'est pas un bon générique. Et alors, et les autres ? Oui, on peut dire, voilà, c'est un film de Kodak, ça va, oui. La pellicule vient de chez Kodak, chez Fuji, ça va. Mais un film de, non, c'est pas bon.
J'ai remarqué qu'au tout début de votre carrière, vous utilisiez des choix de cadres divers et variés qui allaient du gros plan au plan très large. Aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, plus du tout, vos personnages sont cadrés en plan américain dans leur quotidien. Qui correspond évidemment à votre décor, de manière à mettre le spectateur à leur hauteur.
Eh bien, ça vient de l'idée que c'est l'esthétique qui doit suivre un principe. Le principe que la caméra est l'observateur. Et pourquoi la caméra est un observateur? Parce qu'on veut que le public soit présent, en fait. Et si la caméra a un point de vue de quelqu'un qui est au ras du sol, c'est pas une vision humaine. Si la caméra est au plafond, c'est pas une vision humaine normale. Ça détruit cette idée que le public soit présent dans la pièce. Et pourquoi on veut que le public soit présent dans la pièce? Parce qu'il veut qu'il y ait un engagement avec le personnage. Et toute l'esthétique n'est pas choisie au hasard. Il y a une fonction. Mais la conséquence, du moins je l'espère, c'est que les cadres soient agréables. Et j'espère qu'il y a une certaine délicatesse dans l'intention. Que ça fonctionne visuellement aussi bien qu'intellectuellement, c'est ce que j'essaie de vous dire.
Pourquoi est-ce que vous montez toujours vos films sur pellicule?
On l'a fait jusqu'aux deux derniers, ce qui est très triste d'ailleurs. J'aime bien le rythme d'avoir à monter sur pellicule. Parce qu'on réfléchit plus profondément quand on monte. Vous savez, on est tous, Jonathan et moi, le monteur, on est toujours côte à côte quand on monte. Et c'est une des plus belles parties du processus. Parce que, en fait, aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a un match de cricket en cours, un match de cricket très important. Si on était dans la salle de montage, on écouterait le match de cricket pendant que nous montons le film. Et ça, c'est une des bonnes choses dans le montage. On peut vivre sa vie pendant qu'on monte un film. Et ça ne vous empêche pas de faire une bonne coupure, un bon montage. Mais il faut connaître le score du cricket. Voilà. C'est très important. Bon.
I like the rhythm of it.
J'aime bien ce rythme-là.
Mais
le problème de monter sur un ordinateur, on appuie sur un petit bouton X fois. Mais quand on monte le film, même si c'est des rushs, même si c'est pas le négatif, on réfléchit plus profondément. Mais quand on monte, ça veut dire que on filme en pellicule. Mais ça coûte de l'argent de filmer sur pellicule. Donc on est beaucoup plus discipliné. Discipliné dans la façon de filmer, discipliné dans la façon de monter. On aimerait bien toujours monter sur film, mais l'infrastructure a disparu. Très très peu de réalisateurs peuvent avoir maintenant des tables de montage avec son et image synchrone. Et on avait autrefois besoin d'un assistant. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un assistant. Mais autrefois, avec l'assistant, la conversation était plus nourrie parce qu'on était trois.
Ken Loach, vos films ont régulièrement les honneurs des plus grands festivals. Vous faites partie du club fermé des réalisateurs doublement palmés à Cannes. Est-ce que c'est important pour vous?
Ce qui est important, c'est le fait que on apprécie le travail des gens. Des gens qui connaissent le cinéma, qu'ils pensent que c'est bien. Et c'est un plaisir. D'être primé par ce groupe de personnes. Ça ne peut pas définir ce que vous faites. Oui, on peut, mais bon, vous respectez ce que disent les gens, mais finalement, c'est un jugement d'un groupe de personnes. Parfois, ils vous aiment, parfois, ils ne vous aiment pas. Ça ne peut pas vous énerver.
Il ne
faut pas le voir hors proportion. Et ça a un grand effet sur le nombre de personnes qui voient le film. Et ça a des conséquences énormes pour nous. Dans le dernier film, l'histoire d'un homme qui est mort alors qu'il se battait pour avoir les dédommagements qui lui revenaient de l'État, M. Blake, ça aurait pu être un très bon film vu par très peu de personnes. Mais en raison de la Palme d'Or, des centaines de milliers de spectateurs l'ont vu. Ça voulait dire quelque chose, donc c'était très important.
Et d'ailleurs, quel spectateur de cinéma êtes-vous?
I'm not a good cinema goer. I'm better at a football game, really.
Je ne suis pas un bon spectateur. Je suis nettement meilleur au football. C'est pas que j'y comprenne tellement en football, mais quand on regarde un film, c'est tellement difficile de pas le déconstruire pendant qu'on le voit et de se dire ah ouais, où est-ce qu'ils ont mis la caméra, pourquoi ils ont monté ça comme ça. Je suis pas très bon en tant que spectateur.
Et est-ce que vous regardez la télévision alors?
Je regarde des documentaires à la télé, mais je préfère la radio. Je préfère écouter le son. Parce que, comme on dit, l'image est meilleure.
Merci Ken Loach. À demain pour le dernier épisode de votre À Voix Nue.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Ken Loach. À Voix Nue. Traduction Michel Slotowski. Réalisation Marie Placet. Prise de son et mixage Frédéric Quérault, Éric Boisset. Coordination Sandrine Trainer. Attachée de production Daphné Abgral. À Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.